Je crois qu'il y avait une première question d'Olivier de la Doucette au professeur Gabel. Les histoires d'odorat, allons-y, parlons odorat.
Alors, odorat, oui, dans les troubles neurosensoriels, alors on avait fait ces études il y a quelques temps, en particulier pour les pathologies à corps de Lévy, qui sont peut-être un tout petit peu plus touchées. La difficulté, c'est que les tests d'odorat sont relativement complexes à harmoniser. Et que il y a beaucoup de modifications parce que si vous avez fumé, si vous avez déjà vous êtes performant au niveau olfactif ou pas, etc. Si vous avez manipulé des produits toxiques au cours de votre vie professionnelle, donc il y a beaucoup de facteurs qui font que le test olfactif est pas si évident à générer de façon très harmonisée, très objective, pour pouvoir vraiment identifier les choses, comme on peut le faire, mais il y a des tests, ça a continué, mais on l'utilise pas en pratique clinique. Par contre, les tests de rétine que je vous parlais, c'est maintenant, il y a même maintenant des machines qui analysent l'aspect ophtalmique en 6 minutes, ça fait 45 tests ophtalmiques. Ça fait des images qui sont du coup tout à fait analysables par intelligence artificielle et qui sont tout à fait reproductibles et dont on peut en fait extraire le profil très spécifique. Et l'aspect auditif également, c'est des tests qui sont à la fois de l'électrophysiologie et des aspects actifs de participation sur l'audition. Et donc du coup, c'est beaucoup plus objectif, reproductible et donc analysable en fonction de certains facteurs. Voilà. Mais l'olfaction, bien évidemment, c'est quand même très intéressant. Surtout qu'à l'époque, il y avait aussi plein d'hypothèses sur l'aspect cellule souche au niveau de tout le tractus neuroolfactif. Et donc, ça, c'était aussi des belles pistes de recherche.
Merci. Alors, nos invités ont très vite compris que le vaccin contre le zona pouvait être une idée intéressante et facile à mettre en œuvre. Parce que les conseils que vous nous donnez dans votre livre, il faut les mettre en œuvre tout au long de la vie, en fait, hein, pour se protéger. Le vaccin contre le zona, c'est 2 piqûres, en fait, hein, et qui font pas mal. Et en plus, remboursé par l'assurance maladie depuis janvier 2025, comme vous l'avez dit. Question, à partir de quel âge est-il conseillé de se faire vacciner contre le zona? Et est-ce héréditaire? Donc en fait, c'est pour tout le monde, hein, ce vaccin.
Le zona est-il héréditaire? Donc le zona, 65 ans, la recommandation française. Peut-être qu'elle ira un peu plus tôt dans les années à venir avec ces nouvelles données. En tout cas, à l'heure actuelle, on est à 65 ans. Sur les données, non pas des troubles cognitifs que je vous ai présentés aujourd'hui, qui sont toutes chaudes sorties du four, hein, mais sur les données du zona et ce qu'on appelle les douleurs post-zoostériennes, ce qui est le plus impactant dans le fait de faire un zona. Vous savez, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une zona, on a tous, dans notre enfance, fait la varicelle. C'est la primo-infection. La première fois, le virus, qui s'appelle le VZV, rentre dans notre corps, on fait une varicelle. Puis après, il s'endort, mais il s'endort, il est toujours là. Il est dans notre système nerveux, quiescent, latent. Et lorsqu'on vieillit, eh bien notre immunité contre ce virus diminue petit à petit et il peut faire des résurgences, alors pas sous forme de varicelle, mais sous forme de zona, qui sont des petites éruptions cutanées, alors petites par la taille des fois, mais impactantes par la douleur qu'elles procurent. Donc au niveau, par exemple, du thorax, ça peut même être des fois le visage ou autre, et qui sont très douloureuses et qui peuvent entraîner des douleurs invalidantes. Donc c'est pour empêcher ça que ce vaccin a été développé, et c'est pour ça qu'il est recommandé. Avec ces nouvelles données, j'ai envie de vous dire, non seulement faites-le, mais encouragez tout le monde à le faire. Et à nouveau, je précise que je n'ai pas de lien d'intérêt avec les laboratoires qui font ces vaccins-là. Mais vraiment, c'est presque miraculeux, du 20% sur les démences.
Toutes les personnes qui ont eu autour d'elles une personne touchée par le zona et qui en a souffert pendant des années, puisqu'en gros, on a 3 jours pour réagir. Hein, si il y a un médicament qui marche pendant les 3 premiers jours de l'apparition de la maladie. Si vous ratez le cap et que vous n'avez pas fait le vaccin, effectivement, vous pouvez souffrir de douleurs terribles. Et le nouveau vaccin, donc le Shingrix dont vous parlez aujourd'hui, est encore plus efficace que le précédent. Donc n'hésitons pas, n'hésitons pas. Gardez le micro, Nicolas. Le lecanemab est-il aussi intéressant pour les maladies apparenté, maladie à corps de Lévy, etc. J'ai plein de questions, donc on va faire des réponses courtes. Là.
Alors, la réponse est a priori plutôt non, parce que donc il s'attaque aux plaques amyloïdes qui sont propres à la maladie d'Alzheimer. Je mets plutôt non parce que c'est pas si simple. Il y a notamment dans la maladie à corps de Lévy 60 à 80% des patients qui ont aussi des plaques amyloïdes. Alors, est-ce qu'il peut marcher chez ces patients? On ne sait pas, ça n'a pas été testé. Il faudra le faire à l'avenir pour s'en assurer. Mais en tout cas, chez les patients qui n'ont pas de plaques, c'est-à-dire quand même la majorité de ces maladies apparentées, il n'y a aucune raison de penser que ce médicament peut marcher, notamment dans les démences frontotemporales.
Où seront proposés ces nouveaux traitements? Est-ce que ce sera seulement dans les centres CMMRR?
Alors, pour la dispensation, on n'en est pas encore là. Ce sera à la discrétion de la HAS et de la NSM. Ce qui se profile, si le médicament bénéficie d'un accès précoce, a priori, ce serait quand même dans les centres spécialisés à qui seront restreintes les prescriptions.
On termine avec le zona. Quand la maladie est déjà déclarée, le vaccin contre le zona peut-il ralentir sa progression? Donc voilà, il faut être clair aussi là-dessus.
Alors oui, ces résultats sont tout chauds. Et ce qu'ils nous disent, c'est que chez les gens qui n'ont pas de troubles cognitifs, lorsque vous vous faites vacciner, eh bien, dans les 10 ans qui suivent, il y a 20% de moins de gens qui vont en débuter. On ne sait pas, en revanche, ce qu'il en est chez les gens qui en ont développé. L'intuition, c'est que probablement, ça ne fait rien. Je n'ai pas connaissance d'études particulières chez les gens qui ont développé des troubles cognitifs, mais on s'attend a priori plutôt à une action préventive et malheureusement pas curative.
À vous, Audrey. Question sur ce fameux test sanguin qui est arrivé donc aux États-Unis il y a quelques jours, qui a eu son autorisation de mise sur le marché. Comment être prévenu de la mise à disposition du test sanguin? Comment on ne va pas rater le coche à part venir chaque année dans les entretiens Alzheimer? Auquel cas, on est sûr d'être au courant.
Alors oui, vous pouvez venir tous les ans. Donc là, il y a eu la validation. Alors, les biomarqueurs sanguins, ça fait quand même 30 ans qu'on fait de la recherche dessus et ça fait quand même déjà un certain temps qu'on les utilise et que c'est très, très validé. C'est pour ça que ça a été maintenant prouvé et qu'il y a un accord de la FDA aux États-Unis pour un des tests, mais il y a plusieurs types de tests qui peuvent être utilisés. C'est en train d'être évalué au niveau européen et on estime que d'ici peut-être la fin de l'année ou milieu d'année prochaine, il pourrait y avoir donc cet accord de l'agence, ce label de l'agence, enfin de l'Europe pour utiliser ce marqueur. Après, il y a quand même quelques centres qui l'utilisent, dont nous on fait partie à Montpellier avec le professeur Lehmann. On a développé en fait ce test qu'on utilise et mais qui est quand même assez encadré. Donc oui, vous pouvez l'avoir en consultation mémoire, mais la prescription elle reste encadrée. Et il y a d'autres centres, je pense qu'à Paris aussi, c'est en train d'être fait, à Lille c'est en train d'être fait, donc ça s'étend progressivement. Mais comme je disais tout à l'heure, ce ne sera pas au laboratoire du coin de la rue, quoi.
Et en tout cas, soyez tranquilles, lisez notre temps, et s'il y a des nouveautés importantes à ce niveau-là, ce sera écrit dans notre temps. Qu'appelez-vous un centre mémoire et où est-ce qu'on peut en trouver? Des centres mémoire, question d'un de nos invités.
Alors les centres mémoire, alors du coup moi j'ai eu l'honneur d'être présidente de la Fédération des centres mémoire il y a quelques années. Donc en fait on a grâce aux différents plans Alzheimer pu monter un réseau qui est vraiment unique dans le monde. Au niveau des centres, il y a un peu plus de 400 centres mémoire qui sont répartis sur l'ensemble du territoire. Et puis il y a des centres, comme on disait tout à l'heure, CMRR, c'est-à-dire Centre Mémoire Ressources Recherche, qui là sont plus dédiés sur l'aspect de ressources potentielles, sur l'aspect de recherche, avec des équipes qui sont en général associées à des équipes INSERM, CNRS, etc. Donc il y a le site de la Fédération des Centres Mémoire, vous pouvez y aller, et en fonction de votre localisation, trouver un centre mémoire proche de chez vous.
Et votre médecin généraliste doit pouvoir vous orienter?
Oui, en général, bien évidemment, on travaille en réseau avec les médecins généralistes. On travaille aussi en réseau avec les neurologues ou les gériatres en ville ou les psychiatres. Donc, d'un point de vue local, en général, les gens sont au courant de où aller pour ces centres mémoire.
Olivier de la Doucette, cette question est pour vous. Quel est le pourcentage de financement public dans la recherche sur Alzheimer? Insuffisant, bien sûr, votre honneur. C'est ça la réponse.
Il est très faible. Je ne le connais pas, pour tout vous dire. On a énormément de mal à connaître les chiffres. Ça en dit long. Parce que probablement, d'abord, ce financement est ventilé entre plein d'agences qui communiquent assez peu entre elles. Et donc, on ne connaît pas. Mais on sait, en tout cas, que c'est très en dessous de ce qui serait attendu compte tenu de l'enjeu de santé publique que représente Alzheimer. C'est la première cause de dépendance en France. C'est probablement la maladie qui coûte le plus cher également en France et dans tous les pays développés. Et c'est une des maladies qui se développe le plus vite compte tenu du vieillissement de la population. Donc il y a vraiment urgence à mettre le paquet, aussi bien au niveau public que privé.
Est-ce que les nouvelles mesures de Donald Trump contre les chercheurs aux États-Unis vont remettre en cause la recherche sur Alzheimer, nous demande Gilbert. Est-ce qu'il va y avoir moins de recherches aux États-Unis? Est-ce qu'ils vont venir chez nous? Ou est-ce qu'au contraire, ça va faire plonger malheureusement la recherche sur Alzheimer? Ah, il passe le micro, Olivier Ladoucette, vous avez vu? Nicolas, c'est à vous.
Alors, d'un point de vue purement mécanique, du moment où vous diminuez les financements de la recherche, quels qu'ils soient dans le monde, ça va diminuer. Je veux dire, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. Oui, ça va avoir un impact, comme ça va avoir un impact sur la science et la recherche en général. Après, heureusement, la recherche sur Alzheimer ne dépend pas que des financements publics américains. Les financements privés américains sont très, très importants, et évidemment, publics et privés ailleurs dans le monde. Donc non, ça ne va pas s'arrêter là. Oui, ça va avoir un impact.
Revenons sur le lecanemab. Quel est son coût, nous demande-t-on ?
La question est, pour l'instant, en France, on n'a pas encore de fixation du prix, puisqu'il n'est pas encore autorisé. Donc, toute cette négociation de prix est à venir. Ce qu'on peut vous dire, c'est des comparatifs. Par exemple, le prix proposé aux États-Unis, qui est en général très différent de ce que l'on a en France. Vous savez que la Sécu négocie sec quand les assurances privées américaines, elles, enfin, il n'y a pas en tout cas de système centralisé de négociation. Donc, aux États-Unis, c'est $27,000 par an, par patient. Les anticorps monoclonaux, c'est de toute façon une technologie chère dans le sens où ça coûte plus cher que un comprimé de Doliprane, et ça coûtera toujours plus cher qu'un comprimé de Doliprane, même si vous génériquez, même si personne ne se fait de marge dessus. Après, comme le disait Olivier, le coût de cette maladie est très important. Si vous diminuez de 20, 30, 40% les coûts de cette maladie en termes de dépendance, vous faites aussi des économies d'échelle incroyables. Donc, une EHPAD coûte malheureusement plus cher que ce prix de la perfusion. Alors combien d'EHPAD économiser faut-il pour un malade traité? Alors, on peut raisonner comme ça d'un point de vue macroéconomique. C'est pas raisonnable d'un point de vue individuel et d'un point de vue éthique. Néanmoins, ces traitements chers nous obligent aussi à repenser d'un point de vue éthique notre rapport aux soins et notre rapport économique aux soins. À quel point sommes-nous prêts à payer plus d'impôts collectivement pour accéder à ces technologies chères, qui coûteront de toute façon toujours plus cher que ce qu'on a connu par le passé. Donc, c'est bien, ça ouvre un débat. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de réponses, et tant mieux, parce qu'on n'y a pas besoin d'en donner. Mais quelques éléments de réflexion.
Olivier, avez-vous vu des régimes... Ah non, au vu des régimes similaires, est-ce qu'il y a une corrélation entre cholestérolémie et Alzheimer ? Cholestérol et Alzheimer.
Ah oui, bien sûr. Vous avez un réseau, une liaison directe entre l'hypercholestérolémie et on va dire l'incidence de la maladie d'Alzheimer. Ça a été prouvé par un certain nombre d'études. Pourquoi ? Parce que notre cerveau est parcouru par un réseau vasculaire très dense, minuscule, indispensable. Et ce réseau, il est fragile. Dès lors que vous altérez ce réseau par l'hypercholestérolémie, mais aussi par le diabète, le tabagisme, l'alcoolisme, l'hypertension artérielle, vous voyez tout ce qu'on appelle, nous, de notre jargon, les bourreaux du cœur, et je finis avec la sédentarité, eh bien, vous, on va dire, perturbez ce réseau vasculaire, vous pouvez même le fragiliser, et dès lors que le cerveau donc a un réseau vasculaire en mauvais état, il souffre. Et donc, quand vous demandez à votre cerveau qui doit lutter contre cette protéine anormale de par ailleurs avoir à se défendre contre des difficultés liées à un réseau vasculaire en mauvais état, vous doublez pour le cerveau la peine et ça devient un facteur de risque pour lui.
Petite question pour recadrer les choses. Si j'ai bien compris, vous recommandez la consommation de vin rouge, Olivier ?
Non.
Très bien. Comment faire pour éviter l'excès de consommation d'alcool chez un malade ? Alors là, c'est l'excès de consommation d'alcool chez un malade compliqué. Se faire aider absolument.
Oui, Alors, bon, il ne faut pas être non plus trop, on va dire, extrême dans les interdictions concernant la boisson. J'ai eu ce débat avec Nicolas. Lui me dit qu'il ne faut pas boire du tout. Moi, je pense qu'on peut boire un petit peu, mais pas trop, parce qu'on aura de se faire plaisir. Plutôt du vin rouge, parce qu'il a les fameux polyphénols qu'on trouve en plus grand nombre que dans le vin blanc. Je ne devrais pas dire ça parce que je suis porteur d'un nom de vin blanc assez connu de certains, mais toujours est-il que bon, il est vrai que moins on boit de vin, mieux c'est. Toujours est-il, quand on est confronté à un patient qui consomme en excès de l'alcool, c'est toujours très difficile. Il faut se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'il boit. Est-ce que c'est un alcoolisme ancien? Est-ce que c'est un alcoolisme qui a été déclenché à la suite de l'apparition des troubles cognitifs? Est-ce que c'est parce qu'il a des impulsions à boire liées à des altérations neurodégénératives? Ou est-ce que cette personne compense l'anxiété ou la dépression liée à la maladie? Tout ça, ce sont des choses qu'il faut observer de près, essayer de comprendre. Et évidemment, essayer de mettre l'alcool à distance quand on peut, mais je sais que par moment d'expérience, je sais que c'est parfois extrêmement compliqué.
Je vais faire des malheureux parce qu'il y a beaucoup de questions, puis il y a aussi des questions qui sont vraiment des questions individuelles à poser au médecin et que donc je ne vais pas pouvoir poser devant tout le monde là tout de suite. Est-ce qu'il existe des gènes protecteurs de la maladie d'Alzheimer? On ne sait pas encore.
Alors, oui, il y a des gènes protecteurs, il y a ce qu'on appelle des variants génétiques. Vous savez, on a tous à peu près 20 000 gènes, et puis on a sur certains gènes des variants, c'est-à-dire des versions différentes d'une personne à l'autre. C'est pour ça d'ailleurs qu'on se ressemble beaucoup, mais qu'on n'est pas tous identiques. Eh bien, effectivement, certains variants ont été identifiés comme protecteurs de la maladie. Assez récemment, d'ailleurs depuis une dizaine d'années, on en a identifié certains variants d'ailleurs du gène APOE dont j'ai parlé, qu'on appelle le variant Christchurch, qui a été identifié en Nouvelle-Zélande, comme son nom l'indique. Et puis d'autres variants sur le gène de l'APP ont également été identifiés, sur le gène précurseur de la protéine amyloïde, pardon. Donc oui, il y a des variants protecteurs, de façon non surprenante, sur les gènes qui s'occupent de réguler cette protéine amyloïde et cette protéine tau.
Et sur des groupes sanguins qui sont mieux protégés?
Pas à ma connaissance, non.
Bon, beaucoup d'histoires. Ma grand-mère, ma mère ont eu cette maladie. Est-ce héréditaire? C'est des questions qui naturellement se posent. J'ai beaucoup d'oubli. Je ne me souviens plus quand je vois un film. À partir de quand consulter? C'est plusieurs questions reviennent sur cette thématique.
Alors oui, il y a des formes génétiques. Heureusement, ces formes génétiques, elles sont relativement rares. Et souvent, ça veut dire plusieurs cas dans la famille et plusieurs cas tôt, c'est-à-dire avant 60-65 ans. Donc on a, par exemple, dans les centres démence précoce et sujets jeunes, en effet, des suivis de cohortes de cas génétiques dont on a les mutations. Et ça peut être des gens qui commencent la maladie à 35 ans. Mais la majorité des cas, quand on parle d'histoire familiale, c'est plutôt au-delà de 65 ans, donc c'est plutôt en effet la grand-mère, la mère, au-delà de 85-80 ans. Là, c'est plus de la susceptibilité génétique, donc c'est pour ça aussi qu'on fait les APOE4, parce que c'est souvent très lié à cet aspect d'histoire familiale. Mais l'APOE4 est un facteur de susceptibilité, donc vous pouvez développer des facteurs protecteurs qui vont complètement lisser le risque lié à l'APOE4. Par exemple, nous, on a des études sur le sommeil. Quand on réalise, enfin, on optimise en fait la qualité du sommeil, on arrive à retrouver un risque équivalent aux APOE3, qui sont beaucoup moins à risque de développer la maladie, que les APOE4, par exemple. Donc, c'est juste un sur-risque supplémentaire. Et ce qui est vraiment très important, si vous avez une inquiétude, c'est de ne pas hésiter à consulter. De consulter les centres mémoire qui vont pouvoir aussi vous répondre à vos questions, vous orienter sur l'ensemble de la prévention. On a de plus en plus des consultations de prévention sur les sujets à risque qui sont organisés dans ces centres mémoire, et donc ça permet non seulement de répondre à vos inquiétudes, mais de proposer en fait des choses dédiées.
Merci beaucoup, on a déjà un peu dépassé, je ne vais pas pouvoir continuer beaucoup. Est-ce que le médicament Galantevasa est toujours d'actualité?
Oui, c'est la galantamine. C'est un des trois médicaments dont je vous parlais au début de ma présentation. Il appartient à la famille des inhibiteurs de l'acétylcholinestérase. Donc c'est effectivement un des traitements qui sont à l'heure actuelle disponibles à visée symptomatique, comme je vous l'expliquais.
Merci beaucoup pour toutes ces réponses et merci pour vos questions vraiment très vastes, très précises. On sent que vous êtes vraiment touchés, concernés. Merci beaucoup de nous faire avancer les uns les autres avec ces questions.